Voici une question qui suscite l'intérêt de beaucoup de gens. Devons-nous accepter ou rejeter la théorie de l'évolution? Nous verrons ce que la parole de Dieu en dit aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. Évolution ou création? Deux théories qui se contredisent. Vous avez sûrement des questions à ce sujet. Par exemple, peut-on prouver la théorie de l'évolution? Est-ce que l'affirmation que Dieu est le Créateur est encore sensée dans notre ère moderne? Est-ce qu'il y a vraiment un Dieu Créateur? Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Est-ce qu'on devrait rejeter la théorie de l'évolution? Si Dieu a créé l'univers, bien pourquoi l'a-t-il créé? Y a-t-il des choses que la théorie de l'évolution ne peut pas expliquer? La théorie de l'évolution peut-elle expliquer l'origine de la vie sur cette terre? J'ai bien hâte d'entendre ce que la Bible va nous répondre. Dans quelques instants, le pasteur Régent Joly va nous en faire part. Mais demandons à Dieu qu'il nous aide à bien comprendre. Prions. Oh mon Dieu, on entend parler de la création, l'évolution. Qu'est-ce que toi tu en penses, mon Dieu? Enseigne-nous ta pensée à ce sujet. Laisse-nous pas aller sur une mauvaise voie, mais conduis-nous sur ta voie, là où on comprend ce que tu désires qu'on comprenne. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Élaborons davantage sur ce premier texte de la Bible, Genèse, chapitre 1er, verset 1. Je cite. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Mes amis, nous sommes dans la première partie du livre de la Genèse, au premier chapitre, premier verset. C'est une partie merveilleuse et importante du livre de Genèse. La dernière fois, nous avons parlé des théories de l'origine de l'univers. Nous avons aussi considéré quelques théories au sujet de l'évolution. Cette théorie dont nous avons plusieurs variantes n'a jamais été prouvée scientifiquement. La théorie de l'évolution ne fait pas l'unanimité parmi les scientifiques, et ils n'ont pas encore réussi à expliquer tout son mécanisme. Voici une citation du docteur G. A. Kirkcott, qui a travaillé à l'époque au département de physiologie et de biochimie à l'université de Southampton, en Angleterre. Ce docteur est un évolutionniste, et voici ce qu'il affirme. Une théorie dit que l'on peut observer des changements chez des espèces animales sur une période de temps et qu'une nouvelle espèce prend donc naissance. Nous parlons alors de la théorie spéciale de l'évolution. On peut la démontrer expérimentalement dans certains cas. Par contre, une autre théorie, la théorie générale de l'évolution, propose que toutes les espèces vivantes aient évolué d'une seule source vivante qui fut elle-même tirée de matière inorganique. Les preuves à l'appui de cette théorie sont beaucoup trop minces pour que nous puissions la considérer comme étant autre chose qu'une hypothèse de travail. Fin de la citation. Voici ce qu'a dit, à la même époque, le docteur Heribert Nilsson, un botaniste suédois, lui aussi un évolutionniste. Voici sa citation. « Mes efforts pour démontrer expérimentalement le processus de l'évolution au cours des 40 dernières années ont échoué. Au moins, on ne pourra pas m'accuser d'avoir eu un préjugé défavorable à la théorie de l'évolution. » Nous pouvons affirmer que nous ne pouvons même pas ériger un brouillon à partir de faits paléobiologiques. Nous avons découvert tellement de fossiles que nous avons dû créer de nouvelles catégories de classification et nous ne pouvons plus expliquer l'absence d'espèces de transition ou de chaînons manquants entre les séries par le faible nombre de fossiles découverts. Il y a vraiment de nombreux chaînons manquants entre les séries. Et nous ne les découvrirons jamais. Accepter l'évolution est un acte de foi. » Fin de la citation. Mes amis, nous sommes rendus dans le domaine de la religion. Si vous êtes évolutionniste, vous marchez par la foi. L'évolution n'est qu'une hypothèse de travail, de spéculation. Elle a toujours été ainsi. Malheureusement, plusieurs personnes la considèrent comme un fait. De nos jours, un groupe de théologiens, ne voulant pas passer pour des obscurantistes, argumente en faveur d'une évolution théiste. Voici ce que l'un d'eux, Kurt Lee Mather, un scientifique, a écrit. Lorsqu'un théologien reconnaît l'évolution comme étant le procédé de création utilisé par Dieu, il doit être disposé à aller jusqu'au bout de cette ligne de pensée. Non seulement est-ce un processus ordonné, mais c'est un processus continuel. L'âge d'or de l'homme, s'il y en a un, sera dans l'avenir et non dans le passé. Cependant, le processus de l'évolution ne sera pas interrompu par une intervention surnaturelle. L'évolution de la première cellule vivante de matière inorganique peut représenter un saut quantique plutôt qu'un petit pas le long du sentier du progrès, mais c'est un développement entièrement naturel. Mes chers amis, après cette citation, laissez-moi vous dire que c'est impossible. En fait, l'évolution théiste est un principe insoutenable, illogique et peu réaliste. Il y en a qui veulent courir à la fois parmi les lièvres et parmi les chiens de la meute d'une chasse à cour. Ils veulent se déplacer parmi les incroyants, mais avec une Bible Scofield sous le bras. Mes amis, il est impossible de faire les deux à la fois. Ces personnes ressemblent aux cavaliers dans une ancienne course grecque. Le cavalier posait un pied sur un cheval et l'autre pied sur un deuxième animal. Tout allait bien tant que les chevaux couraient au pas dans la même direction. Mais si un des chevaux bifurquait, le cavalier devait choisir la monture avec laquelle il terminerait sa course. Cela décrit bien l'évolutionniste théiste. En général, il termine sa course sur le mauvais cheval. Aujourd'hui, nous rencontrons tellement de personnes reconnues pour leur intelligence qui sont mal renseignées. Voici une coupure de presse, découpée dans le Liberty Magazine, il y a plusieurs années de cela. L'auteur d'un article a posé une question à laquelle il a répondu lui-même. Voici cette question. Quelle est la date de la création d'après les données bibliques? Et quelle date fut proposée en guise de réponse? 4004 avant Jésus-Christ. Combien ridicules pouvons-nous être? Qui a créé cet univers? La réponse est Dieu. Écoutez ceci. C'est important. Voici ce qu'un article paru dans le Life Magazine proposait comme origine de la vie. Je cite le texte. Peut-être que pendant la première moitié de la longue histoire de notre planète, il n'y avait aucune vie sur celle-ci, alors qu'elle était recouverte d'une atmosphère. Les marées montaient et descendaient sous l'influence du soleil et de la lune. Les eaux des océans étaient brassées par les vents, mais on n'y trouvait aucun être vivant. Les plaques continentales étaient dénudées de toute végétation, comme le paysage lunaire privé d'oxygène. Alors, à un point indéterminé, certains disent « il y a 2 billions d'années », d'autres 1 million, la vie est apparue miraculeusement sur le fond des océans. Quelle forme avait cette vie? Quel concours de circonstances l'a amenée à voir jour? La science ne peut pas le préciser, ni répondre avec assurance à la question « Qu'est-ce que la vie ?» La science peut seulement affirmer qu'au moyen d'un agent, une grosse molécule a acquis la capacité de se reproduire. Mes amis, êtes-vous disposés à croire tout cela? D'autres explications presque ridicules de l'origine de la vie furent aussi proposées. L'homme proviendrait d'un dépotoir de matière ou de déchets qu'aurait laissé des visiteurs extraterrestres qui sont venus dans les temps préhistoriques. C'est un scientifique qui nous a proposé cela. Ceci expliquerait l'origine de la vie sur Terre. Des scientifiques nous ont envoyés chercher nos ancêtres dans les arbres, un autre nous a invités à chercher parmi les algues, maintenant nous envoie des dépotoirs extraterrestres. Ne sombre-t-on pas de plus en plus dans le ridicule? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que l'affirmation que Dieu est le Créateur est encore très sensée dans notre ère moderne. Voici comment un philosophe britannique du 19e siècle, Herbert Spencer, a défini l'évolution. Je cite : Une intégration de la matière avec un ralentissement concurrent de son mouvement, pendant laquelle la matière passe d'un état d'homogénéité indéfini et incohérent à un état d'hétérogénéité ordonnée et cohérent, et pendant laquelle le mouvement résiduel subit une transformation semblable. Fin de la citation. Mes amis, réfléchissez à cela pendant un certain temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'énoncé « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre » est encore très sensé aujourd'hui. Qui a créé l'univers? Dieu. Il l'a créé à partir de rien. Quand? Je ne sais pas, et personne d'autre ne le sait. Certains disent « Il y a 1 billion d'années », d'autres avancent 2 billions, et certains vont jusqu'à 5 billions. Comment savoir qui dit vrai? Personnellement, je pense qu'ils sont tous des spéculateurs. Je pense que l'univers fut créé bien avant cela. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu a eu toute l'éternité pour créer l'univers. Que pensez-vous qu'il a fait pendant tous ces billions d'années? Il n'a pas attendu que nous arrivions. Il n'a pas attendu pour vous ou pour moi. Il était très occupé avec sa création. Dieu ne nous a pas dit grand-chose au sujet de celle-ci. Le pygmée du poème que j'ai cité hier était présomptueux de penser qu'il en savait plus que Dieu. Nous devons accepter cette déclaration majestueuse de Dieu inscrite dans sa parole. Nous pouvons faire nôtres les paroles du psalmiste, et je cite « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. » Le psaume 8, verset 4. Et les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le psaume 19, verset 1. De plus, Paul, oui, l'apôtre Paul, dit dans l'Épître aux Romains, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » Romains, chapitre 1, verset 20. L'auteur de l'Épître aux Hébreux affirme, et je cite, « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Hébreux, chapitre 11, verset 3. Nous devons accepter la création par la foi. Même la science ne peut pas expliquer comment on crée quelque chose à partir de rien. Dieu l'a fait, mais l'homme, même aujourd'hui avec toute sa science, ne peut dire quand Dieu le fit. Les nations autour d'Israël avaient aussi des récits de la création, la plupart étant des corruptions du récit biblique. Lorsque l'on compare ces différents récits à ceux des nations, en particulier à celui de Babylone, nous remarquons que le récit babylonien débute avec le chaos, alors que la Bible débute avec le cosmos. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Selon le récit babylonien, les corps célestes sont des dieux, alors que la Bible dit qu'ils ne sont que de la matière. Le récit babylonien reflète une théologie polythéiste, alors que le récit biblique reflète une théologie monothéiste, un seul Dieu. De plus, le récit babylonien est l'œuvre d'un artisan, alors que dans la Bible, c'est Dieu qui crée l'univers en prononçant une parole. Le récit babylonien est puéril et grotesque, alors que le récit biblique présente le Dieu créateur qui est saint et qui est venu nous sauver. Le récit babylonien ne peut pas être réconcilié avec la science, alors que le récit biblique est en accord avec la vraie science. Nous rejetons la théorie de l'évolution, car elle rejette Dieu et sa révélation. Elle nie la chute de l'homme et l'existence du péché, en plus de s'opposer à l'incarnation du Christ et sa conception par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous rejetons l'évolution avec vigueur. Je ne crois pas que cette théorie explique l'origine de l'univers. Nous pourrions en dire davantage. Maintenant, il y a une troisième question. Il ne faut pas demander seulement qui a créé l'univers, quand il fut créé, mais aussi pourquoi il fut créé. La réponse à cette question est des plus importantes. Dieu a créé l'univers pour son propre plaisir. Il a bien voulu le créer et il y a pris plaisir. Voici ce que nous lisons au 4e chapitre de l'Apocalypse. Et je cite, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Apocalypse chapitre 4, verset 11. Dieu a créé l'univers parce que c'était sa volonté. Il l'a fait pour son plaisir. Vous n'aimez peut-être pas l'univers, mais Dieu l'aime. Dieu ne m'a pas consulté pour déterminer un endroit où placer cette petite planète sur laquelle je vis dans son immense univers. En fait, il ne m'a pas demandé si je désirais naître au Québec ou non. Bien entendu, s'il m'avait consulté, j'aurais choisi le Québec, mais il ne m'a pas donné le choix. Cet immense univers fut créé pour son plaisir. Dieu a voulu le créer et il le fit avec plaisir. Il y a une deuxième raison pour laquelle il a créé l'univers. C'est pour sa gloire. La création originale a chanté la gloire de son Créateur. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. C'est ce que nous pouvons lire dans le livre de Job, chapitre 38, verset 7. L'univers fut créé pour sa gloire, et le prophète Isaïe rapporta ces paroles de Dieu dans son livre. « Tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. » Citation d'Isaïe 43, verset 7. L'univers fut créé pour la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous affirme aussi que Dieu a créé l'homme dans l'univers pour être en communion avec lui. Il voulait avoir une communion avec l'homme, donc il en a fait un agent moral libre. Dieu aurait pu fabriquer des robots. Il aurait pu construire des hommes mécaniques qui se serait prosterné devant lui simplement en appuyant sur un bouton. Mais ce n'était pas ce que Dieu désirait. Il désirait des hommes libres de venir à lui, de l'aimer et de le servir. Rappelez-vous, c'est l'affront et le blasphème que Satan a fait à Dieu et à Job en affirmant que celui-ci servait Dieu parce qu'il était bien payé. Satan avait déclaré, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Dieu a déclaré qu'il voulait des créatures qui l'aimeraient et le serviraient de leur plein gré. Mes amis, au milieu de l'incrédulité, des blasphèmes et de l'hostilité envers Dieu qui nous entoure, la plus grande chose que nous puissions faire en tant que créatures humaines est de publiquement prendre position pour son Fils Jésus-Christ. Notre plus grand privilège est de croire en Dieu, notre Père céleste tout-puissant, le Créateur du ciel et de la terre, et de recevoir son Fils Jésus-Christ comme Sauveur personnel. Nous entendons parler partout de liberté de parole et de toutes sortes de libertés, mais cette foule qui parle ainsi autour de nous ne sait pas ce que c'est la vraie liberté. La véritable liberté s'obtient en recevant Jésus-Christ comme notre Sauveur personnel. Donc, retournons notre explication. Il y a trois choses que l'évolution ne peut pas expliquer. Et nous verrons ça dans le livre de la Genèse. L'évolution ne peut pas expliquer comment l'univers a pu venir en existence à partir du néant. Deuxièmement, elle ne peut pas expliquer comment la matière vivante a pu être tirée de matière inorganique. Finalement, elle ne peut pas expliquer comment l'humanité fut formée de la matière vivante. Par l'humanité, j'entends des êtres conscients avec une volonté propre à eux. La théorie de l'évolution ne répond pas à ces trois questions fondamentales. Les médias qui cherchent toujours des histoires sensationnelles publient parfois des choses intéressantes. J'ai une coupure de presse d'un article publié il y a quelques décennies. L'événement s'est produit dans les environs de Glen Rose, au Texas. Ils ont découvert des traces de dinosaures, et ce n'est pas la première fois qu'on en trouve dans cette région. Les premières découvertes furent faites depuis plusieurs années. On s'attend à ce que tout ce qui vient du Texas soit énorme et gigantesque, et les dinosaures confirment cette règle. L'article parlait d'une découverte étonnante, des empreintes géantes semblables à des pieds humains et qui datent de l'ère des dinosaures. Cette découverte dérange, car c'est embêtant de débuter avec une amibe ou une autre être unicellulaire et terminer avec des humanoïdes géants. La théorie de l'évolution fera face à des difficultés au cours des prochaines années, et je prédis qu'elle ne réussira jamais à expliquer l'origine de la vie sur Terre, car son mécanisme demeurera inconnu. Les découvertes et les observations suscitent autant de questions qu'ils en répondent. Ces événements se sont produits dans un passé très lointain. Nous aurons toujours qu'un portrait partiel de l'état de la planète à ces époques lointaines. Donc, nous devons faire preuve d'humilité et reconnaître que nous en savons peu. La science ne pourra jamais infirmer ou confirmer la Bible, qui n'est pas un ouvrage scientifique. Maintenant, revenons au livre de la Genèse. Les origines de l'être humain. Il semble que nous ne puissions pas contourner le premier verset qui nous dit une vérité majestueuse et précieuse. C'est la porte d'entrée par laquelle il faut passer pour explorer la Bible. Nous devons croire que Dieu est le créateur de l'univers. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Hébreux 11, 6. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse chapitre 1er. Verset 1er. Chers amis, voilà le thème de notre prochaine émission. Préparons-nous en lisant encore une fois le premier chapitre du livre de la Genèse.
Merci, Régent. Eh bien, la Bible prouve qu'il y a vraiment un Dieu créateur. Régent a lu dans le psaume 8 au verset 4, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Dieu a créé toutes choses. » Et puis Paul nous dit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 3, « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Ça prend la foi pour croire en un Dieu créateur. Et quand on croit en lui, on n'a pas de difficulté à prendre au mot tout ce qu'il nous enseigne dans la Bible. Il nous dit qu'il a créé toutes choses. Eh bien, il a créé toutes choses. Je suis bien heureuse, moi, d'accepter la théorie de la création par la foi. Oui, Dieu a créé l'univers. Il l'a créé pour son plaisir. Puis il l'a créé avec plaisir. Il nous a créés avec plaisir. Il aime mettre son plaisir en nous, d'ailleurs. Il a aussi créé l'univers pour sa gloire. Ésaïe 43:7 nous parle de ce que Dieu a créé pour sa gloire. Il nous a créés pour sa gloire. Est-ce que ta vie glorifie Dieu? Est-ce que tu examines les Écritures pour voir si ta vie glorifie Dieu? Il nous a créés aussi pour qu'on soit en communion avec lui. Dieu aime qu'on soit près de lui. Il nous a aussi créés libres, capables de choisir si on veut être unis à lui ou si on veut être loin de lui. On peut décider nous-mêmes si on veut venir à lui, l'aimer, le servir. Si tu as ce désir en toi et que tu te sens loin de Dieu, il dit, approche-toi, approche de moi. Il te le dit dans sa parole. Approche-toi de lui, parle-lui, dis-lui que tu veux être près de lui. Et si tu as toujours été loin de lui, si tu ne sais pas comment faire, demande-lui, il va te le montrer. Et ouvre sa parole. Sa parole va t'enseigner ce que tu dois faire pour être près de lui. Par exemple, dans Exode 20, tu peux regarder tous ses commandements. Est-ce que tu les accomplis, ces commandements? Sans sa grâce, tu ne seras même pas capable de les accomplir. Alors, approche-toi de lui. Demande-lui pardon si tu penses que tu as rejeté le moindre de ses commandements. Et il va te pardonner si tu mets ta confiance en lui, si tu mets ta confiance en Jésus. Tu as été créé pour la gloire de Dieu. Alors, approche-toi de lui. Et demande-lui comment faire pour le glorifier à chaque jour dans ta vie. Dieu aime qu'on s'approche de lui. Dieu est relationnel. Il veut être près de sa créature. Tous ses désirs envers toi sont bien nobles. Il désire que tu sois heureux. Il désire que tu sois dans la joie. Il désire te protéger. Il désire être avec toi lorsque tu souffres. Lorsque tu es malade, il veut que tu lui demandes de te guérir. Il aime qu'on lui demande dans tous nos besoins. C'est Jésus qui a dit dans Matthieu au chapitre 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. »
Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous! Vous pouvez recevoir par le feu même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offerts à la grandeur du Québec. Vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-LESPOIR, 1-877-LESPOIR, ou via notre site Internet www.espoir.ca. Ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H6H4. Ici Régent Joly qui vous dit à demain.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.